Et le journal de Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. L'actualité de ce 7h30, bien, c'est l'attaque lancée cette nuit par Vladimir Poutine en Ukraine. Malgré le tollé international, les sanctions infligées par l'Occident. Peu après cette déclaration surprise du maître du Kremlin, de puissantes explosions étaient entendues dans plusieurs grandes villes d'Ukraine, dont Kiev, la capitale, Kharkiv, la deuxième ville du pays. Une invasion de grande ampleur, très coordonnée, nous verrons cela. Un assaut serait également en cours depuis la Crimée. Le président ukrainien Zelensky souhaite une coalition anti-Poutine mondiale. Et dans ce journal, bien sûr, nous irons en Ukraine et à New York, où s'est tenu en urgence un conseil de sécurité des Nations Unies.
La guerre a donc démarré en Ukraine, Laurence, et l'appel en russe du président ukrainien n'a rien changé.
Volodymyr Zelensky s'est adressé à la société civile russe pour qu'elle fasse pression sur ses dirigeants afin d'éviter une guerre en Europe. Il a même demandé à parler à Vladimir Poutine, une demande restée sans réponse. On écoute le président ukrainien.
Chers citoyens ukrainiens, ce matin, le président Poutine a annoncé une opération militaire spéciale dans le Donbass. La Russie a mené des frappes contre nos infrastructures militaires et nos gardes-frontières.
На всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом.
Les États-Unis ont déjà commencé à préparer aujourd'hui un soutien international. Ayez l'esprit tranquille. Si possible, restez chez vous, s'il vous plaît. Nous sommes à l'œuvre, l'armée est à l'œuvre, que ce soit dans le secteur de la sécurité ou de la défense de l'Ukraine. Je reste en contact avec vous, je reviendrai vers vous. Pas de panique, nous sommes forts, nous sommes prêts à tout. Nous gagnerons parce que nous sommes l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine.
C'est Ukraine. Slava Ukraine.
Le président Zelensky. Et puis il était 3h30 ce matin, discours surprise de Vladimir Poutine à la télévision. Le président russe annonce une opération militaire en Ukraine. S'en suivent des explosions dans de nombreuses villes ukrainiennes, pas seulement dans le Donbass, région des séparatistes pro-russes. Nous partons donc retrouver Valentin Dunat en Ukraine. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de France Inter. Où est-ce que vous vous trouvez exactement, Valentin ?
Je me trouve entre Sloviansk et Kharkiv, puisque pour tout vous expliquer, nous étions cette nuit dans le Donbass et nous avions décidé, avant même tout ce qui s'est passé, de quitter le Donbass, estimant qu'une attaque était imminente. Et comme vous venez de le préciser, ce qui change totalement ce matin, c'est qu'il n'est plus question que du Donbass, mais de nombreuses villes, ou plus précisément des infrastructures de nombreuses villes ont été ciblées par des bombardements. Kiev, Kharkiv, Dnipro, Jetomer, Odessa, Mariupol, plusieurs villes donc ciblées, en tout cas plusieurs infrastructures ciblées. Nous avons donc décidé de quitter le Donbass, mais aujourd'hui, ce matin, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a également d'autres informations. La frontière ukrainienne a également été attaquée par des troupes russes depuis la Russie et le Bélarus. C'est ce que rapportent les gardes-frontières ukrainiens. Ces attaques ont notamment été réalisées à l'aide d'artillerie. Alors, il faut bien imaginer ce matin en Ukraine que les Ukrainiens se réveille sans trop savoir ce qu'il se passe. Vous avez entendu à l'instant le président expliquer qu'il ne fallait pas paniquer, mais quand vous ne savez pas précisément ce qu'il se passe, c'est assez compliqué. Ce qui est d'ailleurs notre cas, puisque nous ne savons pas si par exemple des ponts vont être bombardés pour empêcher les chars de partir. J'ai donc demandé par exemple tout à l'heure, pour avoir le pouls de ce qui peut se passer en Ukraine, à la personne qui m'accompagne, on dit un fixeur, c'est la personne qui permet aux journalistes de se rendre dans certaines zones. Je lui ai demandé, est-ce que tu penses que c'est la panique totale dans le pays ? Il m'a répondu, la pire que tu puisses imaginer.
Valentin Dunat, merci. Vous étiez donc en direct d'Ukraine avec Arthur Gerbeau pour les moyens techniques. Alors, vous venez de nous le dire, Kiev, Odessa, Kharkiv, deuxième ville du pays, à 25 km de la frontière avec la Russie, Mariupol, autant de villes où de puissantes explosions ont été entendues. Bonjour Bertrand Galichet, vous êtes de la rédaction internationale de Radio France. L'Ukraine attaquée ce matin depuis la Russie, mais également depuis la Biélorussie, et un assaut est en cours depuis la Crimée, Crimée déjà annexée par la Russie. On le voit Bertrand, cette attaque est de grande ampleur et très coordonnée.
Oui, les attaques, semble-t-il, sont menées à la fois le long des frontières russes et bélarusses. Ce qui remonte des témoignages sur le terrain, c'est que le périmètre des explosions, sans doute des bombardements pour la plupart, dépasse de beaucoup le Donbass. Les déflagrations ont été entendues ce matin à Kiev, dans le centre-ville, avec des bruits de sirènes d'alerte et de sirènes d'ambulance. Et puis, effectivement, comme on vient de l'entendre, des explosions ont eu lieu à Odessa, plus au nord à Mariupol, ce port de la mer d'Azov. Là, les habitants parlent clairement de bombardements d'artillerie. La ville de Kharkiv, deuxième agglomération d'Ukraine, est également touchée par des explosions près de la frontière russe. Plusieurs déflagrations aussi à Kramatorsk, près de la ligne de front. Cette ville sert de quartier général à l'armée ukrainienne. Et puis, à l'instant, on signale des bombardements à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire à la frontière polonaise, c'est-à-dire au porte de l'Union européenne. Donc on voit bien que l'ampleur de l'attaque russe dépasse très largement une simple opération militaire de maintien de la paix dans le Donbass, comme le prétendait Vladimir Poutine. Il s'agirait bien d'une guerre très organisée, déclenchée pour prendre le contrôle de l'Ukraine.
Alors Bertrand, nous verrons dans quelques minutes les réactions internationales à cette invasion, mais Vladimir Poutine met en garde en cas d'ingérence étrangère. Il promet de répliquer, il est assez clair, et il justifie son intervention en Ukraine avec des mots extrêmes. Nous nous efforçons seront d'arriver à une dénazification de l'Ukraine.
Oui, c'est l'intervention du président russe à la télévision. Cette nuit, un discours que l'on peut qualifier de glaçant et aussi d'un peu incohérent, parce que Poutine annonce cette opération militaire spéciale pour défendre les séparatistes, c'est-à-dire les deux républiques reconnues ces derniers jours par la Russie. L'objectif, dit-il, c'est la démilitarisation et aussi, effectivement, la dénazification de l'Ukraine. Un mot extrêmement fort qui a fait tout de suite réagir le président ukrainien Zelensky, qui dément bien sûr toute nazification de son pays. Alors ce terme renvoie à la paranoïa que Poutine pourrait avoir, c'est le mot qu'avait évoqué l'Elysée, et le président russe promet par ailleurs d'envoyer au tribunal ceux qui ont commis, dit-il, de nombreux crimes. Il accuse l'Ukraine d'effusion de sang de civils, notamment de citoyens russes. Nous ne comptons rien imposer par la force, pas de plan d'occupation de l'Ukraine, a-t-il dit à la télévision. Donc on voit bien qu'il y a une contradiction, puisqu'il promet en même temps des conséquences encore jamais connues à ceux qui tenteraient d'interférer avec la Russie. Dans le même temps, il appelle les militaires ukrainiens à déposer les armes.
Bertrand Galichet, merci, de la rédaction internationale de Radio France. Une attaque condamnée de toutes parts en Occident. Le Monde tiendra la Russie pour responsable des morts et de la destruction que cette agression entraînera, a déclaré dans un communiqué le président américain. Joe Biden prévient, les États-Unis et leurs alliés répondront de manière forte et unie. Il s'exprimera dans quelques heures. Le secrétaire général de l'OTAN parle, lui, d'une attaque irréfléchie qui ne répond à aucune provocation. Les membres de l'OTAN doivent se réunir également. Et nous partons à New York à présent. Loïc Loury, vous avez suivi le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'apprête à déposer un projet de résolution avec un vote attendu dans la journée.
Oui, absolument. Un projet rédigé par les États-Unis et l'Albanie. Ce projet de texte prévoit en particulier de condamner la décision de la Russie autour de la reconnaissance des régions de Donetsk et Lugansk il y a quelques jours. Alors un peu trop tard, sans doute, avec cette attaque d'ampleur lancée par Moscou, d'autant plus qu'en raison du droit de veto dont dispose la Russie au Conseil de sécurité, eh bien ce projet de résolution est voué à l'échec. Impuissance du Conseil, déjà ce soir à New York, avec cette session d'urgence invraisemblable, car au moment où Vladimir Poutine sonnait la charge, les membres du Conseil n'étaient pas encore au courant et chacun leur tour assurait que le dialogue était encore possible. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, Laurence, une fois la nouvelle tombée, le Conseil terminé, s'est exprimé. Président Poutine, au nom de l'humanité, dit-il, ramenez vos troupes en Russie. C'est le moment le plus triste de mon mandat.
Loïc Loury, en direct de New York. L'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière, a dénoncé le mépris affiché par la Russie à l'égard des Nations Unies après la décision de Vladimir Poutine d'envoyer des troupes en Ukraine. La Russie a fait le choix de la guerre. La France condamne dans les termes les plus forts le déclenchement de ces opérations. Et puis les Occidentaux vont se concerter aujourd'hui puisqu'une réunion virtuelle du G7 est prévue en début d'après-midi. Et bien sûr, dans ce contexte, le Quai d'Orsay invite tous les ressortissants français à quitter le pays sans délai. L'ambassade de France en Ukraine a ouvert une cellule de crise pour les Français qui se trouvent là-bas. C'est cellule de crise avec un numéro de téléphone, le 380 55 590 36 39. Le reste de l'actualité, en bref, le gouvernement de Hong Kong a autorisé en urgence aujourd'hui les médecins et les infirmières de Chine continentale à venir exercer sur son territoire. Hong Kong redoute de voir son système sanitaire débordé par l'énorme augmentation des nouveaux cas de Covid-19 détectés chaque jour. Et puis les suites des révélations de Mediapart sur Fabien Roussel. D'après le média en ligne, le candidat communiste à la présidentielle aurait bénéficié d'un emploi fictif d'assistant parlementaire entre 2009-2014. C'était auprès du député communiste du Nord Jean-Jacques Candelier. Depuis lundi, Fabien Roussel n'a toujours pas fourni de preuves qu'il était bien collaborateur parlementaire à cette époque-là. Géraldine Allot, de la cellule d'investigation de Radio France.
C'était lundi matin sur Europe 1. Fabien Roussel explique que quand il était assistant parlementaire de Jean-Jacques Candelier, il l'accompagnait lors de ses nombreuses visites sur les sites industriels en péril dans le Nord.
J'ai été avec lui et sans lui poursuivre des conflits dans le Douaisi, chez lui, Arbel, Centrale d'Ornain, la gare Fred de Saumin. J'ai les documents du travail que j'ai fait avec lui sur ces sujets, avec des syndicalistes.
Mais les responsables syndicaux des sites mentionnés par Fabien Roussel ne se souviennent absolument pas de sa présence auprès du député. C'est le cas de Didier Maigrot, ancien secrétaire CGT au comité d'entreprise de la centrale à charbon d'Ornain, qui a finalement fermé en 2013.
Nous, à partir de 2012, quand l'annonce a été faite de la fermeture, on a mobilisé les élus du Nord-Pas-de-Calais. Le député Jean-Jacques Audelier est intervenu à environ une dizaine de fois. Donc il est venu nous soutenir à la centrale. Mais je ne me souviens pas que M. Roussel était présent. Il n'est jamais venu à la centrale.
Autre site menacé à l'époque, la gare de triage de Saumin, qui a subi plusieurs plans de restructuration. Un responsable syndical nous affirme que le député Jean-Jacques Candelier venait très souvent soutenir les ouvriers. Mais lui non plus ne se souvient pas d'y avoir vu Fabien Roussel.
Géraldine Allot, merci.
Merci Laurence Thomas. L'édito politique est à suivre sur un...